La main verte, avec Promesse de fleurs. Créez le jardin et le potager qui vous ressemble sur promesse-de-fleurs.com.
Avec le jardinier de Versailles, Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour Patricia. Bonjour à tous. Alain.
Quel nom étrange pour cette plante, rince-bouteille.
Étrange mais vrai. Pardonnez-moi.
Un petit verre d'eau.
Oh non, ça va pas. C'est un petit chat de temps en temps.
Laissons passer le chat.
C'est l'arrivée de l'hiver. Le rince-bouteille ou Calis meton citrinus est un arbuste qui peut atteindre 3 à 4 mètres de hauteur. Il produit en été des fleurs blanches roses, mais elles sont le plus souvent rouges et très particulières. Elles sont disposées en épis et ressemblent très nettement à un goupillon, comme ceux que l'on emploie pour nettoyer les bocaux, les biberons et les bouteilles, d'où le nom donc de rince-bouteille.
Voilà, j'ai bien compris. Et cette plante est peu connue en France.
Oui, elle est originaire d'Australie, mais elle est frileuse et même si elle supporte les températures négatives jusqu'à moins 6 degrés, mais alors attention, pendant peu de temps, elle n'est heureuse que là où il fait chaud et beau, et ce n'est pas une contrepétrie, ce qui explique pourquoi elle n'est vraiment présente que dans les régions les plus ensoleillées au sud de la Loire, là où le thermomètre affiche au minimum 7 à 8 degrés tout au long de l'année. Bon à savoir, le rince-bouteille tolère très bien les embruns du bord de mer et doit être arrosé régulièrement, mais on le sait moins. Une fois installé, et c'est un comble, il supporte la sécheresse pendant quelques temps.
Une plante qui produit des fleurs et donc des fruits.
Et ceux du rince-bouteille sont disposés sur les tiges et peuvent s'y maintenir plusieurs années. Ils contiennent des graines qui s'en échappent si les températures deviennent très élevées, et c'est le cas lors des incendies de forêt. Les graines tombent alors dans la cendre et germent.
Ouais, c'est ce qu'on appelle une plante pyrophyte, donc.
Oui, à savoir un végétal qui a besoin du feu pour se reproduire.
Est-ce qu'il existe d'autres plantes qui possèdent comme ça des noms curieux, comme celui de rince-bouteille?
Oui, il en existe un certain nombre. Je pourrais vous citer l'euphorbe obesa ou plante baseball, la joubarde ou barbe de Jupiter, Tolminia menziesi, aussi appelée la poule et les poussins. J'ai bien dit la poule et les poussins, c'est bien le nom de la plante. La scutellaria casque ou grande toque, ou encore ma préférée, mais vraiment, elle est extraordinaire. C'est une plante qui est la Lantana camara et qui a pour autre nom, et ce n'est pas une blague, Marie derrière l'hôpital.
Eh bien, écoutez, pourquoi pas.
À propos d'hôpital, vous savez que le masque, ça se met pas sur le menton, et vous faites ça à côté d'un médecin.
Ah, c'est gentil de me le rappeler, Madame Martin.
Alain Baraton, vos conseils aux auditrices et auditeurs de France Inter. Anne-Marie voudrait savoir à quel moment faut-il tailler un prunus.
Eh bien, le prunus, tout dépend du prunus. Il y a une diversité de prunus absolument considérable. Alors, le prunus, en général, se taille seulement si besoin est, et les végétaux après la floraison. Donc, si c'est un prunus qui fleurit au printemps, on le taillera en été. S'il fleurit en été, on le taillera à l'automne. Ce n'est pas plus compliqué.
Spokia, c'est son nom, vous demande quoi faire de ces géraniums. Que faire de mes géraniums en hiver? Dois-je les rentrer?
Je n'aime pas tellement, parce que l'idée de les rentrer, on va vous dire qu'on les suspend par les pieds, on va vous dire qu'on les met dans la cave, etc. C'est difficile de les récupérer. Le plus simple, c'est de les installer sur la terrasse, de jeter par-dessus une toile en polypropylène ou ce que l'on appelle les voiles d'hivernage si le froid menace, de les éviter de trop les arroser. C'est souvent l'eau dans la terre qui provoque des dégâts, et avec un petit peu de chance, ils peuvent persister d'une année sur l'autre, mais ne rêvons pas. Si les pélargoniums, car on parle de pélargoniums, étaient capables de résister d'une année sur l'autre au nord de la Loire, on en verrait beaucoup plus et n'importe où.
Antoine, vous voudrez vous parler de son pied d'éléphant. D'abord, c'est quoi un pied d'éléphant?
C'est un bocarnéa, c'est une plante qui a un pied renflé, assez important. C'est une plante d'intérieur que l'on voit souvent aujourd'hui, donc des grandes feuilles lancéolées, disposées un petit peu comme un ananas pour caricaturer, mais les feuilles sont vraiment souples et longues, et il y a un gros pied comme un baobab, mais encore plus important.
Alors, plus important que le baobab, oui, j'ai peur pour la cuisine.
Je parle dans le renflement, pas dans la dimension.
Donc Antoine a un pied d'éléphant qui a les feuilles qui deviennent sèches aux extrémités, et il vous demande, est-ce que j'arrose trop ?
Alors oui, très certainement, parce qu'en hiver, le bocarnéa doit être arrosé en moyenne une fois par mois. J'ai bien dit, une fois par mois, dans son pays, dans ses régions d'origine, ce sont les régions quand même désertiques d'Amérique, de là où est originaire la plante. Donc, elle a l'habitude d'un repos, y compris en eau. Mais ce n'est pas parce qu'on ne supporte l'eau qu'une fois par mois que l'hygrométrie de la maison est suffisante. Un petit coup de pulvérisation d'eau sur le feuillage dans la journée ne lui fera pas du mal, c'est la cause cause du dessèchement. Sinon, plein soleil, bien évidemment, la plante en a besoin.
L'albizia, c'est Yves qui écrit. Un albizia planté au printemps dernier, il fait environ 80 cm. Il a perdu toutes ses branches cet automne. Est-ce que l'arbre serait mort? Albizia, pour décrire.
Albizia, c'est une plante qui rose qu'à les feuilles, un petit peu du lilas. C'est une plante qui fleurit rose, qui est assez connue, qui tient son nom d'Albizi, qui était un Italien du 18e. C'est une très jolie plante, mais qui est compliquée, qui a besoin de chaleur, qui est souvent sujet à quantité de petits problèmes, et qui là, d'après la description, malheureusement, oui, est mort.
Bon, un dernier conseil pour ce week-end.
Un très bel ouvrage, vraiment très beau, Nature et paysage en Bretagne. Il est signé de, je trouve plus le nom, c'est de François de Beaulieu et de Alicia Pénicaud. C'est un ouvrage sur la Bretagne, sur les paysages naturels mais également artificiels, sur la faune, sur la flore. Des dessins magnifiques, joliment expliqués. C'est publié chez Skol Vreiz, donc c'est Nature et paysages en Bretagne, deux auteurs magnifiques, François de Beaulieu et Alicia Pénicaud.
Vous voyez, vous arrivez très bien à parler avec un masque.
Oh ben c'est gentil, Martin, mais rassurez-vous, je sais.
Merci Alain Baraton, et à demain, il est 8h10.